Chapitre 1. Ici. Il accéléra encore. Le souffle court, les lèvres sèches, il laissa échapper un gémissement, puis précipita sa foulée jusqu'à ce que sa vue se brouille et que le battement du sang dans ses tempes étouffe la réalité autour de lui. C'était le seul moyen de faire le vide. Impossible autrement d'empêcher son cerveau de s'accrocher aux moindres détails familiers. L'école de la petite, là, juste derrière. La crêperie médiocre à l'angle dans laquelle ils étaient allés dîner une fois. La rue piétonne, les volets de fer des boutiques recouverts de graffitis délavés. Au feu, à droite, l'avenue sans âme qui menait vers les centres commerciaux. La pluie qui griffait la lumière des projecteurs sous les panneaux publicitaires. L'ombre patibulaire du pont de la voie ferrée. Le vague souvenir des derniers trains, peut-être 10 ans plus tôt. Même lorsqu'il fermait les yeux, son corps tout entier s'acharnait à lui rappeler son ancrage dans ce monde borné, rempli de repères, de règles, d'angles droits, de menaces. Sa course vers rien devenait une fuite. Alors il accélérait à nouveau, attendant le moment où la douleur prendrait le dessus sur le reste. Il suffisait souvent de quelques centaines de mètres, quelques dizaines de secondes et il n'en pouvait plus. Il tombait à genoux, s'étranglait, crachait, les yeux noyés de larmes. Il vomissait parfois, quand il avait quelque chose à vomir. Une fois, il s'était même évanoui brièvement sous la violence inouïe de l'effort. C'était parfait. Ce soir, la douleur tardait à venir. C'était une vilaine nuit de novembre. L'horloge de la pharmacie indiquait 3 heures du matin. La croix verte se reflétait dans l'eau des flaques et l'écho liquide de ses pas résonnait sur les murs. Il serra les dents, s'efforçant d'aller plus vite encore. Il n'avait jamais aimé courir. Dans son ancienne vie, c'était une corvée à laquelle il fallait se plier. C'était le boulot, le rituel immuable des aubes grises. À présent qu'il avait remisé son uniforme, il aurait pu faire autre chose, du foot avec son gamin, du vélo, du crossfit ou un autre sport à la mode aux exercices portant des noms anglais prétentieux. Mais non, il courait et c'était tout. Il se fichait complètement des marathons et des compétitions locales dans lesquelles il aurait sans doute pu bien figurer. Les footings du dimanche le long des mêmes sentiers, vêtus des mêmes tenues fluorescentes que ses voisins, ne l'intéressaient pas davantage. Il ne voulait pas faire de sport. Il ne voulait même pas rester en forme. Il ne voulait surtout pas concourir à quoi que ce soit. Il voulait s'épuiser suffisamment pour réussir à s'endormir. L'effort physique au-delà du raisonnable était la seule chose qui fonctionnait encore. Il avait quitté l'armée quelques mois plus tôt. Plus envie. Le mécanisme s'était brisé, sans doute pendant la dernière mission ou alors juste après le retour. Quand il avait annoncé sa décision, ses chefs avaient essayé de le remotiver, de lui donner des perspectives, une mutation, des stages, des objectifs à atteindre. Il s'en foutait. Il ne demandait rien. Il voulait arrêter. Les insomnies n'étaient pas venues tout de suite. Bien sûr, il y avait eu la colère et la fatigue coutumière des retours, les premières nuits agitées de ces cauchemars dont il ne se souvenait jamais et que Mathilde lui racontait à son réveil, en détournant les yeux pour cacher son inquiétude. Il y avait eu d'autres choses aussi, des sursauts, des angoisses, quelques accès de rage, le souffle court, le teint pâle, les dents et les poings serrés, la tempe qui palpite. Rien de grave au fond. Il suffisait d'attendre que le moment passe. Il finissait toujours par reprendre le contrôle. Il avait de l'espoir pour la suite. Le printemps arrivait, les enfants avaient grandi, on irait à la mer cet été. On ne pouvait tout de même pas passer sa vie à se lamenter en se regardant le nombril. C'est lorsqu'il avait fallu reprendre le travail, remettre le treillis, retrouver sa section, en morceaux elle aussi, que la machine s'était peu à peu déréglée. Il avait d'abord vu réapparaître les tics de son enfance, de plus en plus fréquents, et des gestes qu'il ne s'expliquait pas. Il passait son temps à se gratter les avant-bras, à tirer les épaules vers l'arrière, comme s'il était engoncé dans une chemise trop étroite. Désagréable, mais pas alarmant. Il s'était rassuré en se disant qu'il ne buvait pas plus que de raison et n'en avait pas l'intention. Il n'était pas non plus devenu violent. Au fil des semaines, il avait juste arrêté de rêver, puis arrêté de dormir. Et puis un matin d'avril, le reflet de son visage dans la glace lui sembla être celui d'un étranger. Tout était là pourtant, la mâchoire carrée, les cheveux courts. « Trop court, court sans équivoque !» lui disait Mathilde avec un rire forcé et un peu résigné, et à peine grisonnant. Les joues creuses, les rides au coin des yeux, celles que l'on attrape à force de parler à la troupe en se mettant face au soleil. La tronche et le corps d'un vieux soldat dont le regard était en train de disparaître. Une seconde plus tard, il avait laissé glisser la lame de son rasoir sur sa peau, peut-être sans y faire attention, peut-être en le faisant exprès. Une toute petite entaille. À la vue de la première goutte de sang, il s'était effondré, en larmes, sur le carrelage de la salle de bain. 2 heures plus tard, le dos raide dans sa tenue impeccable, le regard sombre et les traits tirés, un minuscule pansement dans le cou, il était allé frapper à la porte du capitaine et lui avait annoncé qu'il prenait sa retraite. Marre de sa chambre de célibataire à la sortie du régiment, marre des 2 heures de route le week-end pour rentrer chez lui, marre des rassemblements, de l'attente, des responsabilités, marre de tout. Il voulait refaire le toit de sa maison, respirer, réfléchir, construire des cabanes pour ses mômes, passer à autre chose. C'était du moins ce qu'il avait dit au capitaine, puis au président des sous-officiers, puis au colonel. En vérité, il voulait surtout dormir. 2 mois plus tard, une cérémonie rapide et un peu triste sur la place d'armes du régiment avait officialisé son départ. Il n'avait pas été question de s'arrêter de travailler. Pourtant, la maison était presque payée, sa petite pension et le salaire de Mathilde auraient suffi pour qu'il vive confortablement pendant quelques mois au moins, le temps de faire le point et de se remettre d'aplomb. Mais il n'avait rien voulu entendre. Un copain de copain lui avait trouvé un poste de gardien dans un entrepôt pas très loin de la maison. 2 semaines après avoir rangé ses treillis et ses souvenirs dans une grosse cantine de fer qu'il avait traînée au grenier, il avait signé son contrat, reçu ses clés et son badge et fait ses débuts dans le monde de la sécurité privée. Mal à l'aise dans une mauvaise copie d'uniforme, il avait retrouvé les gestes du matin et remis un pied dans la routine que l'on exècre, mais qui donne un cadre et un objectif. Il avait essayé et échoué. Il ne dormait plus du tout. Il traversait les nuits secoué de terreur et les journées comme un fantôme. Mathilde avait tenté de l'aider. Elle savait faire. Elle avait appris à consoler, à caresser, à ne rien dire, à caler son souffle sur le sien, à attendre immobile et en silence que le sommeil vienne l'engloutir. Rien n'avait fonctionné. Alors, elle l'avait traîné chez le médecin, puis chez un psy. Elle avait écumé les forums de discussion sur Internet, redoutant une tumeur au cerveau, une méningite, un truc foudroyant sorti de nulle part, plié en 2 mois. À court d'idées, elle l'avait même emmené chez une rebouteuse locale complètement allumée. En sortant du cabinet de la sorcière, une pièce sombre qui empestait l'encens bon marché et la poussière accumulée sur des coussins râpés, il lui avait demandé d'arrêter de l'aider, avec une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. Elle s'était résignée, et lui s'était retrouvé seul face à ses nuits blanches. À la fin de l'été, il avait commencé à courir. Il était presque à la sortie de la ville lorsqu'il sentit enfin ses jambes lâcher. Il se laissa tomber vers l'avant, s'accrochant de justesse à un lampadaire pour ralentir sa chute. Tremblant de tous ses membres, il attendit à 4 pattes que le martèlement furieux de son cœur ralentisse un peu. Entre 2 hoquets, une nausée libératrice lui fit cracher une mince flaque jaunâtre sur le bitume. C'était le signal. Vite, rentrer dormir, tout de suite, avant que la conscience revienne pour de bon. Ignorant le goût âcre dans sa bouche, il se releva et regarda autour de lui. Il n'était pas trop loin, parfait. Il fit demi-tour d'un pas mal assuré. 10 minutes plus tard, il s'engageait dans la petite allée pavillonnaire au bout de laquelle se trouvait la maison. Son souffle s'était apaisé, ses paupières alourdies. Il avait 3 bonnes heures à dormir avant que le réveil sonne. Il sentit une vibration discrète dans sa poche. À cette heure-ci, sûrement Mathilde qui s'était réveillée et s'inquiétait. Agacée, il sortit son téléphone. Elle savait bien bon sang. Mais ce n'était pas Mathilde. À sa grande surprise, c'était Marouane, son ancien adjoint. « Mon adjudant, appelez-moi, il y a un problème avec Lulu. » Stéphane fronça les sourcils et, sans s'arrêter de marcher, envoya sa réponse. « Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler mon adjudant. » Il poussa le portillon de son jardin et rentra dans la petite maison silencieuse.